I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. Et ce mois-ci, justement, mon invité, je suis très heureux de l'avoir à mes côtés. Elle est journaliste, autrice et réalisatrice de documentaires. Vous avez pu la voir dans l'émission Story Série sur OCS ou dans la joyeuse bande du Cercle Série sur Canal+. Vous avez pu regarder ses documentaires The Art of Television ou découvrir son récent livre Grunge, Jeunesse éternelle. Cette personne formidable, inconditionnelle de Pearl Jam et de David Lynch, c'est Charlotte Bloom. Salut Charlotte.
Mais quelle présentation incroyable.
Ah, je prends soin de mes invités.
Magnifique. Salut Thibaut.
Mais ce n'est pas fin, je suis très heureux de t'avoir dans Année Lumière.
Mais je suis contente d'être là.
Mais écoute, plaisir partagé. Alors, j'ai cité effectivement The Art of Television dans ma présentation. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que c'est cette série documentaire avant qu'on rentre dans l'émission
Oui, bien sûr. C'est une série documentaire que j'ai commencé il y a 6 ou 7 ans, je ne sais même plus, et qui s'intéresse aux réalisateurs et réalisatrices de télévision qui sont un peu les oubliés de cette industrie. On parle des auteurs, on parle des showrunners, on parle des acteurs, des producteurs, mais alors les réels, tout le monde s'en fout. Donc évidemment, pas moi, parce que moi j'aime bien les gens dont tout le monde se fout, j'aime bien les gens en marge. Donc il y a très longtemps, j'ai essayé de m'intéresser à comment ils travaillaient, parce que sur une série où tu as 15 épisodes, tu as souvent 8 réalisateurs. Donc comment ça marche, comment on se passe le relais, comment on travaille, est-ce qu'on a le droit d'aller en montage ou pas. Enfin voilà, c'est des questions que je me posais. Et du coup, ça fait des années que je rencontre des réalisateurs et réalisatrices de séries qui me racontent leur process et qui en même temps me racontent leur parcours. Et le but de cette série, c'est à la fois de raconter ce que c'est ce métier et, je l'espère, de donner envie à des gens de devenir réalisateurs ou réalisatrices de séries.
Formidable. Et là, comme tu me disais hors antenne, tu sors du tournage de la saison 3 du coup de The Art of Television. Est-ce que tu as un petit teasing de qu'est-ce qu'il va avoir dans cette saison 3 de
oui.
la série de...
C'est une saison, c'est la dernière saison, donc il fallait avoir une bonne raison de la faire. Donc ouais. Là, la bonne raison, c'est qu'on parle que de femmes, de réalisatrices. C'est pas le truc le plus simple de la Terre, parce que assez spontanément, ouais. elles disent non, les femmes, quand on leur donne la parole, parce que voilà, il y a ce syndrome de l'imposteur vraiment fatigant. Mais on a réussi à faire une saison avec 6 épisodes, avec notamment des gens de cinéma, puisqu'il y a Helen Hunt qui fait partie de ces réalisatrices, ou bien Suzanne Beer, qui raconte leur parcours et qui donne envie de réaliser, de regarder des films, de regarder des séries, de les analyser. C'est la saison la plus dure à faire, mais je crois que c'est la meilleure.
Et on a hâte de la voir, et du coup ça devrait arriver sur OCS dans combien de temps à peu près?
J'ai pas encore la date.
Ah, d'accord,
tout ce que je peux
bien.
Dire, c'est que j'ai hâte de la finir.
D'accord, bon, j'espère que ça a donné envie en tout cas aux auditeurs et auditrices. D'aller découvrir The Art of Television qui est sur OCS, qui est disponible en tout cas les deux premières saisons, en attendant la troisième. Ce mois-ci dans Année Lumière, on plonge en plein dans les années 90 pour discuter d'un millésime emblématique, curieux et passionnant, où les blockbusters côtoient un cinéma plus hétéroclite, plus modeste, plus intime et qui se veut parfois même la voix de toute une génération. Une année de nouvelles images, virevoltantes, grisantes, subversives aussi, de jeunes premiers devenus superstars du jour au lendemain, et d'auteurs cultes voyageant entre deux mondes, celui des images et celui des mots. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1994. Pas de doute, on est bien dans les années 90. Alors, je suis désolé, cher auditeur, on est dans les années 90. Ça s'appelle The Sign de Ace of Base. C'était la chanson en tête de tous les classements en 1994. Et Charlotte, tu m'en as voulu quand je t'ai dit qu'on allait passer cette musique au début de l'émission. Ouais, mais désolé. Et toi, tu dansais là-dessus. Hein,
Mais je dansais là-dessus parce que moi, en 94, j'avais 16 ans, que je suis génération MTV, que je regardais MTV du matin au soir. Plutôt pour voir des clips de grunge et de Pearl Jam et de Nirvana et de Soundgarden, mais il y avait toujours Ace of Base à un moment ou à un autre, et malheureusement, ces chansons-là, ces chansons archi-pop, ouais. tu les oublies jamais.
Ah, ça rentre dans la tête, c'est
horrible.
Terminé. Je rappelle les édifiquements aux auditeurs, quand j'invite quelqu'un dans l'émission, c'est l'invité qui choisit l'année en question qu'on traite. Pourquoi avoir choisi ce 94? Pourquoi cette année-là, Charlotte?
Moi, c'est une année, c'est vraiment un truc intime, mais c'est une année très importante pour moi parce que c'est l'année de la mort de Kurt Cobain, et que c'est vraiment l'année où où, en tant que fan de musique, de Nirvana, de grunge, j'ai fait un deuil d'une partie de moi et où vraiment j'ai compris à quel point l'art, n'importe lequel, était central dans mon existence. Et je pense que c'est à ce moment-là que même j'ai commencé à me dire je veux être journaliste, je veux parler d'art, je veux parler de musique, je veux parler de cinéma. Donc c'est vraiment une année importante. Comme je le disais tout à l'heure, j'avais 16 ans, c'est l'année où tu te construis, donc... C'est l'année, une des années les plus importantes de ma vie.
Une sorte d'épiphanie traumatique, totalement. On va dire, un petit peu.
Oui, on l'a vécu en communauté, donc ouais. Ça allait.
Effectivement, 94, tu l'as dit, c'est l'année de la mort de Kurt Cobain. Mais c'est aussi l'année du génocide de Rwanda et du massacre des Tutsis par des extrémistes Hutus. L'année où Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud et où un dénommé Jeff Bezos crée une petite société de vente de livres à distance en Californie. Son nom Amazon. En 94, les fans de séries comme Charlotte passaient une excellente semaine de septembre puisqu'à quelques jours d'intervalle sortaient les premiers épisodes d'Urgence et de Friends sur NBC. Les avides lecteurs découvraient le tout premier roman de Michel Houellebecq, extension du domaine de la lutte. Et on disait au revoir au photographe Robert Doisneau et au King of Comics, le dessinateur Jack Kirby, co-créateur de Hulk, Iron Man ou encore des X-Men. Mais 94, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Alors que Clint Eastwood remet la palme d'or du Festival de Cannes à Pulp Fiction de Quentin Tarantino, les spectateurs se ruent en salle pour voir Forrest Gump, True Lies, Entretien avec un vampire ou encore Le Roi Lion de Walt Disney. Mais l'année cinéma se révèle généreuse et hétéroclite, on l'a dit. Le nerveux Speed côtoie notamment le tendre Chungking Express. Et quand la Cité de la Peur et Quatre mariages et un enterrement honorent rire, le Péril jeune et la Reine Margot, eux, nous prennent par les sentiments. Mais au début des années 90, quelque chose remue le cinéma indépendant américain. De jeunes réalisateurs mettent en image, souvent avec de petits moyens, les doutes et les questionnements d'une jeunesse désabusée, donnant ainsi un visage à une génération tout entière. En 94, cette génération produit plusieurs films essentiels, dont celui qui va être au centre de notre premier thème, Clerks de Kevin Smith. Clerks de Love Among Freaks, qui est donc la musique du film du même nom, Clerks, de Kevin Smith, avec un film avec Brian O'Halloran, Jeff Anderson et moult autres acteurs, et qui raconte l'histoire de Dante, qui est un caissier d'une petite épicerie du New Jersey, et de Randall, qui travaille dans le vidéoclub d'à côté, et qui est simplement une journée ordinaire de ces deux personnes et d'autres personnes qui vont les croiser, faite de discussions, d'événements improbables, la vie tout simplement. C'est un film, pour bien que les auditeurs cernent un peu le film dont on parle, c'est un film en noir et blanc qui avait été tourné en 16 mm à l'époque, qui est produit, écrit et réalisé vraiment avec une économie modeste par Kevin Smith. Clerks, premier du nom, c'est donc un film qui a eu un budget de $27,000 et qui à l'époque, en 94, a ramené plus de $3 millions. Donc c'est vraiment, quand il sort en 94, Clerks, c'est un succès indépendant américain vraiment notable et qui, on va dire, place, on va dire, un certain réalisateur, un certain cinéma sur la carte, en tout cas, dans des festivals comme Deauville, comme Cannes, comme Sundance. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, comment est-ce que tu le décrirais, toi, Clerks ? Quelle expérience de cinéma c'est, Clerks ?
C'est le cinéma qui, moi, me touche le plus. C'est le cinéma de la banalité, quoi. Mmh. C'est le cinéma de la... C'est des mots que tu as utilisés au début, de l'intimité, de la modestie. Pour moi, une forme de cinéma grunge, enfin, indé, c'est à peu près la même chose. Et c'est vraiment la preuve sur un grand écran que tout le monde, qui qu'on soit, on a une histoire à raconter, on existe, on est là, on discute, on a des choses à se dire. C'est un film de dialogue, hein, c'est un film où il se passe rien, hein, globalement, c'est des potes qui travaillent et qui font une partie de hockey sur le toit de l'épicerie. Voilà, il ne se passe rien et c'est une journée banale. Et pour moi, c'est vraiment le moment où tout le monde a eu le droit, avec ou sans glamour, d'exister sur le grand écran et de faire partie de l'histoire du cinéma dont tu peux t'être senti exclu à un moment.
D'accord, donc t'as pas besoin d'avoir des millions ou t'as pas besoin d'avoir une histoire forcément ambitieuse dans un sens, on va dire, effectivement grandiloquente pour raconter des choses intéressantes. Et effectivement, comme tu l'as décrit, c'est y a des scénettes comme ça avec des gens qui viennent acheter des œufs, qui mettent 20 plombs à choisir les bons œufs. T'as quelqu'un qui vend des chewing-gums et qui fait son bis pour inviter tout le monde à arrêter de fumer et pour acheter ses chewing-gums. Donc t'as plein quand même de scénettes. C'est un film qui est quand même humoristique.
Ah oui, oui, il y a une forme d'humour.
C'est une comédie, une comédie sociale.
C'est une comédie,
sociale,
c'est une comédie romantique, voilà, aussi, aussi, parce qu'il y a aussi évidemment des histoires d'amour entre Dante, Veronica, sa meuf actuelle, et Caitlin, la meuf qui l'obsède depuis on ne sait pas combien de temps et on ne sait pas trop pourquoi une fois qu'on voit les deux. C'est vraiment la vie simple des gens simples. C'est ce que propose le cinéma indépendant. C'est évidemment des thématiques et des personnages de la classe moyenne américaine qui n'attirent pas les gros budgets des studios. Donc il faut trouver un autre moyen de raconter ces vies-là. Mmh. Et c'est ces réalisateurs indés qui vont écrire, réaliser, appeler leurs potes pour faire la lumière, appeler leurs potes pour jouer dedans. Enfin voilà, il y a un aspect extrêmement communautaire. 94, c'est aussi une des premières fins du grunge. C'est une forme de cinéma grunge où on va avancer ensemble et à partir de rien créer des millions, parce que effectivement comme tu disais on part de 28 000 balles pour arriver à 3 millions de dollars, c'est, ouais, énorme. Et après il a construit une forme d'empire derrière, c'est sorti en comics, Jay, Silent Bob sont devenus des personnages cultes, enfin c'est exactement comme Nirvana qui enregistre dans un garage et qui devient énorme 2 mois plus tard. C'est le même système.
Et Kevin Smith s'inscrit vraiment dans une, j'en ai parlé un petit peu, mais dans une génération de gens qui, un peu dans le même style, avec des moyens modestes, vont faire ce genre de cinéma-là, indépendant, américain. Là, effectivement, on a vu qu'il a reçu des prix, on a vu qu'il a eu de l'argent, on voit qu'il raconte quelque chose de particulier. Est-ce que Clerks, c'est un film manifeste de quelque chose
Pour moi, comme Seinfeld, c'est une sorte de pendant série, c'est le manifeste de tout le monde a le droit d'exister. Et ça a l'air de rien, ça a l'air pas important. Et en fait, il n'y a pas plus important que de dire tout le monde a le droit d'exister. Si Clerks a le droit d'exister, ma bande de potes a le droit d'exister. Et il y a quelque chose d'extrêmement rassurant, d'extrêmement bienveillant dans ce que ça raconte. Mais ça raconte aussi que les portes du cinéma, les portes de cette espèce de palais où personne n'ose aller, où tu as l'impression qu'il faut faire partie d'une élite pour qu'on te confie un film ou machin, ça dit aussi, tu veux faire un film ? Eh bien, écris-le, réalise-le, bouge-toi, fais ton truc. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce que tous les réalisateurs disent aujourd'hui à la jeunesse en disant, vous avez des iPhones, faites des films, Clerks dit exactement la même chose. Kevin Smith n'est pas plus malin et pas plus connecté que toi ou moi, mais à un moment il s'est dit je vais faire mon film et il a fait son film. Donc c'est le manifeste de ça, non seulement on existe tous, mais on a tous le droit à cette place dans cette espèce de truc élitiste. Il n'y a pas d'élite en fait, tu l'éclates l'élite.
Là, au début des années 90, il y avait ce boom des caméras qui étaient plus légères, qui étaient moins chères, qui permettaient du coup à des gens avec des moyens modestes de tout de suite faire des films. Soderbergh en est un parmi tant d'autres. Clerks arrive est le maillon d'une chaîne qui est plus grande que lui, qui le dépasse véritablement. Et tu parlais du coup de cinéma grunge. Donc moi, le grunge, pour moi, c'est un mouvement musical. C'est même au-delà de ça, peut-être une philosophie aussi, une culture grunge, véritablement. Est-ce qu'il y a vraiment un cinéma grunge ? Ça existe ?
Oui, pour moi, très clairement, mais c'est vraiment davantage... Effectivement, c'est un mouvement musical, mais c'est surtout un mouvement d'une forme d'état d'esprit, de solidarité, d'humilité, de bricolage, de débrouille. Mais tu vois aussi l'héritage musical de cette scène-là. En 94, t'as Serial Mom qui sort, dans lequel t'as L7 qui joue en live, le film de John Waters. T'as Angela 15 ans en série avec Claire Danes qui ne peut pas être plus grunge, et Jordan Catalano avec son petit cordon de cuir, là, Jared Leto, beau comme le jour, tu peux pas être plus grunge que ça. T'as So Fucking What avec Steven Dorff qui a un film de... Ce mot bat slacker, de branleur, quoi, ouais, qui, malgré tout, a un message, dénonce les médias. C'est
le film de Linklater qui s'appelle Slackers, d'ailleurs.
Absolument, qui est des années auparavant et qui est l'influence principale, le pilier de Clerks. Donc, des films où tu sens que d'avoir vu des jeunes mecs de 20 ans qui n'avaient pas une thune, perdus à Seattle et qui ont réussi à conquérir le monde... Ça se transmet partout, et ce cinéma-là, que ce soit par la décision de faire un truc par soi-même ou par la musique, là t'as du Alice in Chains aussi dans Clerks, enfin du grunge.
Ouais, la BO de Clerks, c'est une BO qui est quand même effectivement
très
teintée grunge.
Rock alternative, ouais, grunge, il y a un peu de métal, enfin en tout cas on est dans la partie rock. T'as Airheads qui est sorti cette année-là avec Steve Buscemi, Brendan Fraser, avec des métalleux mais qui sont habillés en chemise à carreaux, jeans dégueulasses. Donc tu vois des marqueurs du mot grunge ou du mouvement grunge qui arrive dans le cinéma, et t'as Reality Bites, enfin Génération, oui, 90, pareil,
ou
t'as Les Looks de Ben Stiller, qui est un film absolument génial, où t'as ce message aussi, mais qui peut être le message de Clerks, qui est on n'a pas d'idole, on n'a pas d'icône, on n'est pas formaté, on est comme on est, on veut être comme on est. Dans Génération 90, tu as le personnage principal, Winona Ryder, qui veut faire du documentaire, qui veut raconter la vie telle qu'elle la voit. Et ce qu'elle filme, c'est Clerks. Mmh. Elle filme ses potes en train de manger de la pizza et de discuter. Donc tu as une espèce de circuit qui te dit... Tu es un artiste, sois un artiste, dis que tu es un artiste et crée.
C'est marrant parce que comme tu en parles, effectivement, tu disais, on me donne ce moyen de m'exprimer et qu'est-ce que je vais filmer ? Ça va être la réalité. Mmh. Ça va être c'est comme si, effectivement, au début des années 90, tu avais cette... deux mondes qui se créaient, un certain cinéma effectivement qui vendait de l'imaginaire ou en tout cas, voilà, et cette génération grunge qui allait chercher dans la réalité, dans quelque chose de, sans artifice, sans fioriture, une sorte de, ouais, de sens véritablement, sachant que le grunge, pour cerner pour les gens qui nous écoutent, c'est un mouvement qui existait à peu près à quelle période,
qui a explosé en tout cas en 91. D'accord. Avec Smells Like Teen Spirit de, ouais, Nirvana, mais qui a plein de groupes et qui existait déjà à la fin des années 80, qui s'inspire du punk, qui s'inspire du métal. C'est une sorte de melting pot d'influence musicale qui, musicalement, tous ces groupes-là, de Nirvana, Soundgarden, à Pearl Jam, Alice in Chains, L7, Babes in Toyland, ne se ressemblent pas musicalement, mais en revanche, portent le même message, toujours ces mêmes choses, d'humilité, de communauté, de solidarité, où chacun va voir l'autre jouer, etc. Et tu peux voir dans le cinéma indépendant aussi des communautés de gens qui se serrent la main, qui s'aident, qui s'entraident. C'est vraiment... le grunge, au-delà des millions que ça a rapporté et au-delà des mythes du suicide de Kurt Cobain, par exemple, qui est un peu le seul truc dont on se souvient du grunge, c'est un immense mouvement humaniste.
Mmh. Et c'est vrai que du coup, là, on en parlait. Bon, clair que ça arrive en 94, donc après quand même plein d'années de grunge, donc c'est un film qui a infusé quand même et qui arrive pas un peu à la fin, mais en tout cas, il y a plein de films avant, Slakers, etc., Linklater, Cameron Crowe, des gens qui font déjà du cinéma, on va dire, grunge, qui peut être estampillé grunge. Et comme tu disais, Richard Linklater, il était venu il y a quelques années à Georges Pompidou pour présenter, parce que c'est un vidéaste avant d'être un réalisateur. Hein, pour les auditeurs qui nous écoutent, Richard Linklater, c'est le réalisateur de Boyhood, de School of Rock notamment, il y a ces films-là, et qui, au tout début de sa carrière, faisait des films, des vidéos sur justement ses amis, sur le temps qui passe. Et le temps qui passe, c'est une notion de lui qui le fascine véritablement. Et du coup, quand on parle de temps qui passe, forcément on parle de vie qui passe, d'existence. Et moi, je trouve que et Clerks et le cinéma grunge qu'on arrive à esquisser un peu tous les deux là, est-ce que c'est un cinéma existentiel ?
Peut-être un peu, parce que effectivement, dans Slacker de Linklater, c'est que des gens qui se passent un relais conversationnel. C'est des gens en train de discuter. Mmh. C'est comme si toi et moi, on était en train de discuter et que la caméra se tournait vers nos voisins, ne nous écoutait plus et écoutait nos voisins, ça fois 50. Donc c'est que des conversations de gens, mais quand on parle, on évolue. Quand on parle, on avance. Quand on se confie, on avance. On se pose des questions, tu me réponds, je te réponds. Mmh. Donc oui, il y a un fond existentiel de ça, mais... au-delà de ça, il y a surtout un truc de vivre dans le moment. Il y a une phrase à un moment dans Clerks où Dante dit « I live day by day ». Voilà, je vis au jour le jour. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que se projeter, espérer le succès, espérer la grandeur, ça ne sert à rien. Regarder derrière, ça ne sert à rien. Donc la seule chose qui sert à quelque chose, qu'on voit très bien dans Slacker et qu'on voit très bien dans Clerks, ce qui se passe sur une journée, pas demain, pas hier, aujourd'hui, c'est ça qui compte. On vit maintenant. Et pour moi, c'est ça que raconte ce cinéma-là. Ça sert à rien d'aller regarder partout autour. Regarde, toi, ce que tu vis, tes amis, les gens en face de toi, tes collègues, les gens assis à côté de toi dans le métro. Vis là, maintenant, tout de suite. Et Clerks, en racontant ça, j'imagine à l'époque, moi je l'ai vu en décalé, que les gens qui sont allés au cinéma... Enfin, je suis sûre et j'espère qu'il y a 5% des gens qui ont saisi une caméra 5 minutes plus tard pour aller filmer leur grand-mère, quoi. Pour se dire, mais moi aussi, je vais faire ça, et moi aussi. Et c'est raconter une époque, c'est hyper important. Aujourd'hui, t'as quoi comme marqueur pour regarder les années 90 ? T'as les clips vidéo, et t'as un film comme Clerks, qui te raconte des fringues, des conversations, des questionnements, des coupes de cheveux, la clope. Voilà, c'est des marqueurs du temps.
Ouais, t'as MTV et t'as Clerks et t'as ces années 90, effectivement. Mmh. Ça, c'est assez fort, cette idée de, y a pas de, enfin, on regarde pas en arrière, on regarde pas en avant. Ce que tu me racontes, ça me fait penser quand même, m'instigue l'idée qu'il y a quand même un côté désabusé dans cette génération.
Non, c'est exactement ça.
Parce que quand tu regardes Reality Bites, quand tu regardes effectivement les films de... Tu vois quand même que c'est, même Before Sunrise d'une certaine manière, c'est des gens qui, oui, qui vivent au jour le jour, mais qui du coup... arrive pas à se projeter, alors soit par choix, soit par...
Les ados, les vingtenaires du début des années 90, alors on a tendance à regarder vers les États-Unis parce que c'est un peu ça, la culture qu'on a un peu malgré nous, c'est les enfants des premières vagues de divorce, donc c'est qui est un des sujets principaux de Reality Bites, enfin... tous ces gens, tous ces colocs sont des enfants de parents divorcés, et parce qu'ils sont enfants de parents divorcés, ils ne croient plus en rien. Et c'est aussi ça qui crée des espèces de fissures familiales qui font qu'on recrée une famille dans l'art, on recrée le grunge, c'est que des mômes de divorcés qui font des groupes ensemble parce qu'ils ont pas de famille, et j'imagine que la moitié de céréales, c'est exactement pareil. C'est aussi les mômes post-Reagan, donc c'est un super haut taux de chômage, c'est hyper dur de se projeter, c'est hyper dur d'espérer. Dans son discours d'investiture, Reagan dit très clairement, ceux qui vont en chier le plus, c'est les vieux et la jeunesse. Comment veux-tu, dans ces moments-là, ne pas être désabusé? Ouais. Et comment veux-tu ne pas te dire, à partir d'aujourd'hui, j'essaye juste de finir ma journée, quoi. Et Clerks essaye juste de finir sa journée. Alors, il y a de l'humour dans ce film, donc sans spoiler, ça finit sur un truc complètement abracadabrant. Hyper chelou, avec un cadavre dans des toilettes. Bon, bref, je n'en dis pas plus. Donc, ça finit quand même par une pirouette et ça finit par un moment.
Ouais.
Mais dans Clerks, tous les moments, c'est juste fumer une clope, louer un film et discuter. La vie, quoi.
Et la beauté, elle est là, quoi.
Bien sûr. Et moi, je trouve ça... Le noir et blanc de Clerks m'émeut beaucoup parce que c'est la couleur des photos de Charles Peterson, qui est le photographe du grunge. C'est le noir et blanc de Hype, le documentaire phare sur le grunge. Donc, ce noir et blanc est très beau et ça donne une espèce d'écrin arty à rien, à une journée dans la vie d'une bande de potes.
Dernière question, on va dire, pour conclure ce thème, peut-être. On est en 94, mort de Kurt Cobain. Forcément, c'est un point de rupture. Est-ce que, et la mort de Kurt Cobain, et Clerks, d'une certaine manière, sont des films qui ferment quelque chose ou ouvrent quelque chose d'autre? Est-ce que 94, c'est une année charnière dans ce genre de cinéma-là, et dans le grunge en particulier?
Bah, je pense que ça ferme la musique et ça ouvre le cinéma, malheureusement, parce qu'il y a eu un break derrière 94, en tout cas dans le côté musical du grunge, puisque... comme tous ces mecs-là étaient des amis qui vivent dans une micro-ville, quand tu perds l'un des tiens,
Seattle,
Seattle, ton monde est détruit complètement. Et la plupart de ces groupes, après, ont levé le pied et ont arrêté de faire des tournées et machin. Et c'est là que, tu vois, la Britpop est montée, le néo-metal est arrivé et ils ont laissé de la place. Green Day est arrivé. Enfin, voilà, il y a plein d'autres groupes et plein d'émergences de nouveaux mouvements qui sont nés aux États-Unis. Donc, il y a eu un break dans le grunge qui, pourtant, existe encore aujourd'hui. Et je pense qu'au contraire, là, mettre un énorme coup de pied dans la porte du cinéma et balancer des réals de cinéma indépendant et prouver qu'on peut avancer, évoluer, etc. Il n'y a pas de break dans le cinéma indépendant. C'est une fois que ça roule, ça roule. Et les gens qui ont vu Clerks ou Slacker ou Reality Bites, il y en a plein qui font des films aujourd'hui, mais ces circuits-là, ils existent dans toutes les formes d'art. Les gens qui font des séries aujourd'hui ont grandi avec Les Sopranos. Enfin, je veux dire, c'est des cycles. Donc, pendant que le grunge musical pleurait, sont morts, et en fait, c'est mort parce qu'il y en a eu plein sur 3 ou 4 ans, ou 5 ans. Au contraire, dans le cinéma, et puis voilà, Pulp Fiction, quoi.
Ça a migré, enfin, quoi, vers le cinéma. Et
ça a migré, et puis ça a montré que ça pouvait marcher. Donc, c'est pas seulement t'as fait ton petit truc et c'est tout, et il n'y a que ta propre satisfaction. T'as fait ton petit truc et ça a rapporté 3 millions de dollars. Mmh. T'as fait ton petit truc et ça a rapporté une palme. T'as fait ton petit truc et les gens ont aimé, et il y a des gens qui sont allés en salle le voir. Ça peut que lancer quelque chose. Là où un suicide, malheureusement, à un moment, également pour moi, j'avais peur que mes autres chanteurs préférés se suicident aussi. Enfin, je me disais qu'ils partent tous en vacances, qu'ils s'arrêtent, c'est trop dur, c'est horrible. Il y a eu un break, forcément.
Ouais, d'accord, mais c'est marrant, effectivement, que ça a migré de la musique et de...
Oui, qui ont beaucoup repris dans les bandes originales où t'avais tout le temps du Babies in Toyland, tu vois, dans So Fucking What, t'as Babies in Toyland, t'as Hall, t'as Soundgarden, enfin, il y avait une espèce de boulimie de ces chansons-là et de ce qu'elles contiennent et qu'elles mettent dans ton film au moment où on l'entend, quoi. Comme l'a fait très récemment la série Yellow Jackets, qui a beaucoup de grunge dans son truc et ça a apporté quelque chose de très fort. Et dès que t'entends Hall ou Smashing Pumpkins, hop, il se passe un truc. Et hop, ton film, c'est autre chose.
D'ailleurs, c'est très bien parce que j'avais demandé, et du coup, en 2022, où est le grunge en 2022?
Yellow Jacket. Il est avec Pearl Jam au Lollapalooza le 17 juillet.
Non, bah, où tu vas être d'ailleurs? Parce que tu es sans doute à tous les concerts de Pearl Jam.
J'en suis à beaucoup. Mais oui, il est dans Yellow Jacket. Enfin, je veux dire, il y a une Nirvana dans Succession.
Ouais.
Là, on est dans un truc où le grunge est partout. Et je suis trop contente.
Parce qu'on arrive dans un revival, après les revivals des années 80, on arrive dans un revival des années 90, et du coup, d'une certaine manière aussi, effectivement, du grunge.
Et parce qu'on est désabusé.
Voilà. C'est une magnifique conclusion pour ce premier thème. Est-ce que tu voulais, toi, compléter quelque chose, peut-être, ou rajouter quelque chose avant qu'on enchaîne?
Non, mais juste ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que normalement, l'art devrait créer des artistes. Et normalement, si tu vois un film, et que ça se voit que c'est facile... Enfin, ça se voit que c'est pas des grosses machines et que t'as pas besoin de moyens incroyables. Normalement, si tu vois un film comme ça, derrière, tu fais un film, tu écris un livre, tu fais un album. Et ça le rend accessible.
Exactement.
Et c'est hyper important.
Ben voilà, voilà qui conclut parfaitement ce premier thème sur le cinéma grunge, sur Clerks de Kevin Smith, toujours avec Charlotte Bloom. Et c'est parti pour le second thème de notre émission.
I was driving down Melrose Boulevard by the Improv. I saw this psychic palm reader sign. And she gave me a reading, and she said, you're about to do three things, three movies, that will be very, very, very big and very important. And after that, it will be impossible for anyone to knock you down from that place. Shortly after that, I did Ace Ventura, The Mask, and Dumb and Dumber.
Cette voix, c'est celle de Jim Carrey. Elle est issue du documentaire Jim and Andy, sorti en 2017, qui racontait effectivement ce documentaire qui reprend des images du tournage du film Man on the Moon de Milos Forman, et qui est un documentaire que je vous conseille, il est sur Netflix. Et du coup, on a cette histoire un peu tarée de Jim Carrey qui nous raconte que juste avant 94, il a cette personne,
une voyante
qui lui lit les lignes de la main et qui lui dit « Tu vas faire trois choses, trois films importants qui vont être si importants que tu vas arriver à des sommets, dans des cimes, et tu seras inatteignable et on ne pourra pas t'en descendre. » Et l'année suivante, Jim Carrey fait, en 94, trois films, Ace Ventura, Détective Animalier, The Mask et Dumb and Dumber, qui, tout cumulé, réalisent plus de 700 millions de dollars au box-office mondial. Donc trois films qui ont certes des critiques mitigées, mais qui deviennent et qui sont aujourd'hui des classiques du cinéma. La même année, quand même, c'est assez phénoménal que, voilà, en un an, Jim Carrey devient l'acteur tout simplement le plus populaire derrière Tom Hanks. D'ailleurs, il devient l'acteur le mieux payé en 95, puisque c'est le premier acteur à être payé 20 millions de dollars pour un film qui sera disjoncté de The Cable Guy, disjoncté de Ben Stiller en 96. Donc voilà, c'est qu'en 93, pour vous cerner un petit peu, effectivement, Jim Carrey est dans une émission qui s'appelle In Living Colors. Et en 95, c'est genre l'acteur le mieux payé de tous les temps. Donc on se rend compte de la révélation de Jim Carrey. Qu'est-ce qu'il incarne pour toi, Jim Carrey, Charlotte ?
Le droit à être différent. Le droit à être différent, le droit à la loufoquerie dans tout ce que ça a de sombre et de lumineux. Mmh. Pour moi, il a autorisé les gens à être mélancoliques et drôles à la fois. Je trouve que c'est vital, en fait.
C'est beau, ça.
Bah, c'est vraiment, pour moi, ce qu'il représente. Alors, c'est dans The Mask qu'on le voit le mieux, où il a un peu de rôle, quoi. Mmh. Il a cette espèce de banquier loose-man, romantique, pas terrible, qui essaye désespérément d'avoir une belle histoire d'amour. Et puis, il devient ce mec hyper cool, hyper drôle, dès qu'il a son masque. Mais il incarne vraiment déjà deux facettes de son jeu. Et puis il incarne la facette qu'on montre et la facette qu'on cache. Enfin, la symbolique du masque, elle est quand même hyper importante. Et comme des mecs comme Robin Williams aussi, voilà, il y a une autorisation à la mélancolie, sans la dramatiser, sans la stigmatiser, qui est pour moi ultra importante. Et même si on en reparlera, mais scénaristiquement, c'est quand même pas des chefs-d'œuvre. Le fait que ce soit si populaire, ouais, c'est hyper important.
Ça raconte quelque chose.
Oui.
Sur l'époque, sur les gens, sur
oui,
le
et
cinéma.
Sur l'importance de la comédie dans ouais. la vie, sur l'importance du rire. Récemment, je dis pas que c'était une épiphanie, parce que tout ça, on le sait depuis longtemps, mais c'est en regardant Drôle, la série de Fanny Herrero, que je me suis souvenue à quel point on sauve des vies avec le rire. Et quand t'es comédien, une des choses que tu veux le plus au monde, c'est toucher les gens et les aider. Et quoi que ça raconte, The Mask, Ace Ventura, Dumb and Dumber, ça a forcément, il y a forcément quelqu'un, un mec, une nana complètement déprimée un dimanche soir qui est tombée sur un de ses films et que ça a fait rire et qui a passé une bonne soirée.
C'est marrant parce que tu parlais justement de naturellement, tu parlais de facettes. Et c'est vrai que Jim Carrey, là, 94, on a Ace Ventura, Dumb and Dumber, The Mask, mais on peut le voir maintenant avec le recul dans sa carrière. Il a quand même fait des films extrêmement variés, avec des rôles extrêmement variés. Tu as parlé de mélancolie, il a fait The Truman Show, Man on the Moon, il a fait
Eternal Sunshine.
Et il a fait récemment la série Kidding, justement, qui va encore chercher une partie de cet acteur qui vient nous révéler quelque chose qu'on n'avait pas encore bien vu. Toi, de quelle facette de Jim Carrey tu te sens le plus proche ?
Ah bah la mélancolique, très clairement.
Dans un film, une série en particulier ou
Kidding m'a vraiment coupé les jambes. De Michel Gondry, aussi parce qu'elle parle de deuil et tout. Enfin, elle a une thématique extrêmement forte et puis elle parle beaucoup de communication. Enfin, voilà, c'est une espèce de relecture de Mister Rogers, cette émission pour enfants où tu avais Mister Rogers qui racontait aux enfants c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, c'est quoi le rire et qui éduquait quelque part les mômes derrière l'écran de télé. Et ouais, la thématique est extrêmement forte. Et aujourd'hui, je vois pas qui d'autre que Jim Carrey aurait pu faire ce rôle, à part Tom Hanks, qui se rejoignent, hein, qui l'a fait dans le film, qui raconte l'histoire de Mr. Rogers. Mais ouais, Kidding m'a vraiment coupé les jambes. Je ne suis pas du tout une fan d'Eternal Sunshine. Je pense que c'est un film qui m'angoisse trop. En fait, ce rapport-là à la romance est trop violent pour moi. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, l'acteur qu'il est, là, c'est en 2004, Eternal Sunshine, donc c'est 10 ans après ce triplé incroyable au box-office. Ouais. Tu sens qu'il va vers un truc, que c'est peut-être ça qu'il voulait montrer dès le début, sauf qu'on ne l'a pas vraiment laissé faire. On dirait une trilogie, en fait, ces trois films-là. C'est quand même trois fois un clown.
Ouais.
Même s'il y a des nuances de gris, mais c'est quand même trois fois un clown. Et moi, j'ai l'impression que plus il avance dans sa carrière, même si, a priori, il est en train de...
De
se poser la question, en tout cas de savoir si ça vaut le coup de continuer. Et je peux comprendre, parce que dans Jim and Andy, tu vois que c'est un mec vraiment torturé, quoi.
Il raconte effectivement qu'il était en dépression véritablement. Ouais. Et c'est marrant de voir que effectivement suite au succès, suite à ces cimes qu'il a atteint, il est tombé effectivement en dépression. Et c'est assez particulier de se dire que la même année qu'il fait ces trois succès là, en septembre, il perd son père. Et que du coup, il avait quand même ce recul de se dire, mon père m'a vu quand même avoir quelques mois où j'avais atteint ce que je voulais atteindre. Parce qu'on rappelle, Jim Carrey, donc il est canadien, il n'est pas américain, il n'est pas états-unien, il est canadien. C'est quelqu'un qui a eu une enfance, on va dire, moins que modeste. Vraiment, il était assez pauvre, il n'avait pas beaucoup de moyens. En tout cas, ses parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Il a déménagé plusieurs fois et très jeune, il a trouvé le stand-up pour justement créer... ses improvisations, ses personnages, et on va dire, justement, t'en parlais, mettre un masque au-dessus de toute cette réalité qui était terrible, justement, de pas d'argent, des parents en galère, etc., etc., des parents qui lui disent « Ouais, c'est très bien, mais trouve-toi un vrai travail, etc. » Et avant 94, Jim Carrey, c'est quand même quelqu'un qui, comme ça, au fur et à mesure, il fait des stand-up, au fur et à mesure, il fait de la scène, au fur et à mesure, il est reconnu, il fait des petites émissions. Et il va, mine de rien, jusqu'en 94, tourner avec Clint Eastwood, tourner avec Francis Ford Coppola, tourner avec, comme ça, des réalisateurs qui vont petit à petit lui donner un peu de crédibilité jusqu'à cette année formidable de 94 où il va peut-être trouver le... Quand tu dis Jim Carrey à quelqu'un, c'est peut-être au moins un des trois personnages-là de cette année 94 qui vient en tête, véritablement.
Sauf les dépressifs comme moi ou c'est Eternal Sunshine.
c'est marrant qu'on enregistre ça parce qu'on est nous sommes le 18 mai 2022 et en ce moment, le Festival de Cannes se déroule. Et le Festival de Cannes, qui cette année-là a en affiche Jim Carrey dans The Truman Show. Je sais pas si t'as vu l'affiche magnifique.
Oui, je l'ai vue, elle est très, très belle.
Et du coup, c'est une coïncidence assez amusante de... Parce que moi, tu vois, tu disais effectivement, toi, tu te sens peut-être proche de Kidding, mais moi je crois que c'est Truman Show.
Ah, il est très très fort ce film.
Mais c'est vrai que quand tu regardes toute sa carrière, il y a quand même la thématique qui revient de qui je suis vraiment. C'est-à-dire, quelle est ma place, Truman Show, est-ce que je suis un acteur, est-ce que je suis une vraie personne, Eternal Sunshine, tu vois, je me cherche qui je suis, ma mémoire, machin, Kidding, pareil, qu'est-ce que je représente. Il y a vraiment cette dichotomie entre qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je suis vraiment. Et maintenant, enfin, après avec le recul, il cache plus que ça lui a causé quelques années de dépression. Qu'est-ce que tu dirais que 94 va changer dans on l'a dit dans sa carrière, mais dans son jeu d'acteur véritablement. Qu'est-ce que ça va changer chez Jim Carrey? Qu'est-ce qu'il va gagner et qu'est-ce qu'il va y perdre?
Ça va lui mettre une étiquette. Et il y a rien de pire au monde que de se choper une étiquette quand t'es un artiste. Mmh. C'est-à-dire que Et après, l'étiquette qu'on lui pose, qui est un peu celle du mec clownesque, gaguesque, tu vois, il a une espèce de gestuelle du corps qui est hallucinante. Mmh. Il est unique là-dessus. Enfin, vraiment, il est absolument impressionnant. Mais le problème, c'est que quand tu cartonnes à ce point-là, avec toujours des rôles comiques, où t'es un peu stupide, où ça va pas très loin, et ben, dans toutes les années qui suivent, on te propose que ça. Et d'ailleurs, il va faire Ace Ventura la suite. Enfin, c'est triste, en fait. Et je pense que ce que tu gagnes, sûrement, c'est une sorte d'apaisement qui ne dure pas très longtemps, de la reconnaissance. Effectivement, des années de galère, l'envie de se dire « mon père m'a vu réussir, c'est bon, il peut partir, il m'a vu réussir, c'est ok, je ne suis pas un loser », comme si c'était pas bien d'être un loser, on est tous des losers à la base. Hein. Malheureusement, mais tout ça se rejoint vachement, parce que si tu repenses à Kurt Cobain, au moment où il a réussi, il s'est suicidé.
Ouais.
Donc quand t'atteins ces sommets, en plus aussi vite, genre trois films en un an, le mec il fait un film tous les quatre mois.
Comment tu veux ne pas devenir fou, quoi ?
Devenir fou, perdre pied, ne plus être en contact avec la réalité. Et puis il y a aussi surtout la façon dont les gens sont connectés à toi. C'est-à-dire que c'est là que tu commences à te choper les mauvais amis qui sont là pour les mauvaises raisons. Enfin, je veux dire, il faut être extrêmement fort psychologiquement pour supporter ça.
Et c'est vrai qu'effectivement, la frontière en plus entre la persona, donc cette personne publique qu'il est, qu'il représente aux yeux des gens et qui il est vraiment, était complètement flouée parce que tu le vois même dans des remises de prix, dans des discours officiels. Et il joue Jim Carrey, il joue, tu le vois aux Oscars, tu sens qu'il est encore dans ce personnage-là, même publiquement. Et du coup, tu te dis, mais à quel moment il existe vraiment ? Est-ce que j'ai jamais vu, moi, en tant que spectateur, le vrai Jim Carrey ? À quoi il ressemble ?
On l'a vu dans Jim and Andy. Je pense, voilà. Mais à l'époque, je crois qu'en 94, il aurait fait un doc comme ça en 95, c'était la fin de sa carrière. Oui. C'est-à-dire que là, il était dans un espèce de truc. Puis quand tu regardes les trois films, alors voilà, t'as ce côté gag et tout, mais on lui met aussi une espèce d'étiquette d'acteur pour la famille. Dans tous les films, c'est l'amoureux des animaux, il y a toujours des chiens qui traînent, il a une étiquette hyper Disney, toutes ses fringues archi-colorées. Enfin, t'as vraiment l'impression qu'on est en train de fabriquer une star. Et elle doit être comme ça, et c'est pas autrement, quoi. Et je pense que c'est hyper angoissant. Et même si, effectivement, ces films ont cartonné, et ils ont cartonné au point qu'aujourd'hui encore, ils sont cultes, parce qu'il a eu beau faire des films extraordinaires, des séries extraordinaires, on va toujours le ramener. Enfin, là, j'ai vu que sur la promo de Sonic, il était encore en train de parler d'Ace Ventura. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut pas ignorer la carrière d'un mec qui a fait d'aussi bons films et qui a un extraordinaire acteur, parce que il y a 30 ans, il a fait deux films. Enfin, juste, c'est horrible. Je trouve que c'est horrible. Et ça, pour moi, l'étiquette, c'est hyper dangereux.
Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il a quand même eu... moi, je trouve effectivement des films plus intéressants par la suite, en tout cas plus significatifs pour plein de choses. Et on le ramène encore à des films qu'il a fait il y a 30 ans, encore une fois sur Sonic. Et Sonic, là, c'est encore un rôle où il joue un grand méchant un peu grandiloquent, où il remet le masque Jim Carrey, où il refait des grimaces, où il en fait des caisses. Peut-être qu'il repart encore dans ce manège-là qu'il l'a rendu célèbre. Et c'est assez marrant parce qu'il fait ces films-là, et lors de la promo, et un peu dans la suite de la promo, il annonce que il va doucement arrêter sa carrière et qu'il est peut-être arrivé à la fin de sa carrière d'acteur. Où est-ce que tu aimerais le voir une dernière fois avant qu'il s'en aille vraiment ?
Bah là, j'ai une déformation obsessionnelle, mais j'aimerais le voir dans une grande série, en fait. Parce que Jim Carrey, j'ai pas envie de le voir une heure et demie. J'ai envie de le voir...
n'était pas une bonne grande série.
Non, bien sûr, c'est une grande série et j'ai encore envie de le voir dans une grande série. Ouais. En fait, j'ai plus envie de le voir dans un film où on va le formater, où on va aller le chercher parce qu'il a une grande bouche, il fait des grandes grimaces, parce qu'il a une espèce de corps élastique, parce qu'il a des catchphrases. Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, là, je fais le Grinch, mais vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aurais envie de le voir, je sais pas, dans un Rectify. J'aimerais un film extrêmement dramatique comme ça, parce que quand il tombe le masque, quand on lui donne cette partition-là à jouer, ou alors un Eternal Sunshine XXL, voilà, sur 10 épisodes, sur 12 épisodes, sur HBO, avec une vraie liberté, peut-être même un truc qu'il écrirait, enfin, tu vois, co-écrire Ace Ventura, bon, ouais. Bref. Donc, voilà, j'aimerais le voir dans une grande série extrêmement profonde, un truc beau, en fait.
Et c'est fou, parce que tu parlais effectivement d'Eternal Sunshine, dans Jim and Andy, il raconte un épisode de la production de Eternal Sunshine, où Michel Gondry le voit un an avant le tournage, pour le casting, etc., pour voir comment... ça peut se goupiller. Et à ce moment-là, Jim Carrey est dans une phase de dépression très intense, il est extrêmement triste, il se passe plein de choses dans la vie. Michel Gondry lui dit: t'es parfait, t'es triste comme ça, surtout ne va pas mieux.
Bah, Michel Gondry est comme ça aussi.
Mais oui, mais du coup Jim Carrey dit: c'est terrible qu'on me dise ne va pas mieux.
Non, mais il y a un mythe quand même que l'artiste n'est bon que quand il est triste. C'est terrible. Enfin, moi, je me souviens, je suis une grande fan des Cure. Quand les Cure ont sorti Wild Moon Swings en 96, oh là là, que n'avaient-ils pas fait ? Il y avait des chansons joyeuses. C'est un album extraordinaire. Ils se sont fait défoncer. Je veux dire qu'il y a un moment, ça aussi, c'est des cases. Et malheureusement, je me souviens de cette phrase de Mano Solo où il disait: les gens m'aiment parce que je suis mal et les gens m'aiment parce que je meurs. Et voilà, ce mythe colle au cul des artistes depuis toujours.
Parce qu'il
et
nous
cette
faut
phrase
des...
est terrible.
C'est terrible parce que peut-être que chez les artistes et dans l'art en général, on a besoin de gens comme ça qui mettent un visage, qui mettent des mots, qui mettent des
qui
images sur sur la tristesse, sur la mélancolie, qui disent: ok, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui dit cette phrase là, elle me ressemble. Eternal Sunshine, je pense que tout le monde a vu Eternal Sunshine, ils ont vu un écho de toutes les ruptures qu'ils ont pu avoir dans leur vie, et ça a été un... c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un film culte. The Truman Show, pourquoi c'est en une affiche du Festival de Cannes? Qui n'a jamais pensé être là, un acteur dans une espèce de comédie burlesque qu'est la vie et absurde, et tu vois, on a tous un peu l'impression parfois d'être qu'est-ce qui se passe, quoi, est-ce qu'on est vraiment au centre de notre propre vie? Et Jim Carrey, il pose ces questions-là. Est-ce que je suis au centre de ma propre vie? Qui je suis? Et je trouve que c'est un acteur, effectivement, une capsule parfaite dans laquelle on peut rentrer et on peut y trouver notre compte.
Et Clerks y répond à ça.
Et Clerks,
tu peux être au cœur de ta propre vie. Vas-y, mets-toi-y. En
fait. Et c'est marrant parce que la première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui représente pour toi Jim Carrey? Tu m'as dit le droit d'être différent. Et Clerks, c'est un peu la même chose aussi.
Bien sûr, mais moi, il n'y a que ça qui me touche. The Mask, tous ces moments où il est banquier, il dit qu'il est a little depressed and romantic.
Ah.
Tu vois, voilà, moi, c'est ces personnages-là qui me touchent, et ces personnages-là qui me plaisent. Donc, dès que Jim Carrey est ça, là, je suis à fond. Je suis moins à fond quand il sort sa mitraillette avec ses dents de 3 mètres et que, voilà, ça ne m'intéresse pas. C'est pour voir ça, je regarde Roger Rabbit, en fait. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, oui, c'est le droit d'être différent. Et je pense le droit d'être triste, en fait. On a le droit d'être triste.
Ouais, Jim Carrey nous donne le droit d'être triste. Ben, écoute, c'est assez joli comme conclusion. En tout cas, voilà, on espère qu'il nous écoute et on espère que, comme le souhaite Charlotte, il va recommencer à faire des séries. En tout cas, s'il arrête le cinéma, qu'il se mette aux séries. C'est quand même vachement mieux, n'est-ce pas Charlotte?
Et si possible avec Gondry, parce qu'ils font un duo artistique extraordinaire.
Oh, ils vont nous ressortir quelque chose dans 5 ou 10 ans. Allez.
J'attends.
Allez, on le souhaite. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème autour de l'acteur Jim Carrey et son année folle 94. On est toujours avec Charlotte Boom, vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, et on s'en va sans plus tarder vers le troisième et dernier thème de notre émission. Musique, elle est composée par Thomas Newman et c'est celle du film Les Évadés, The Shawshank Redemption, de Frank Darabont avec Tim Robbins, Morgan Freeman. Un film qui va être au cœur de notre troisième et dernier thème de cette année 1994. Les Évadés, qui est un film adapté d'une œuvre d'une personne qui va être au cœur de notre troisième thème, qui est Stephen King, qui raconte donc l'histoire d'Andy Dufresne en 1947, qui est un jeune banquier qui se retrouve condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme et de son amant. Et il se retrouve emprisonné au pénitencier de Shawshank, donc, où il rencontre Red, un homme désabusé, on y retourne, détenu depuis 20 ans. Et commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes. Et on ne vous raconte pas la fin, de toute façon le titre nous le dit. C'est donc adapté de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank d'un certain Stephen King, l'auteur de 64 romans et de plus de 200 nouvelles. On ne le présente plus, hein, c'est l'un des auteurs américains les plus importants du XXe siècle. Pour vous cerner un petit peu au-delà des romans et des nouvelles qu'il a écrits, Stephen King a été énormément adapté au cinéma et à la télévision. Et au cinéma, il est donc derrière les histoires de The Shining, de Carrie, de Dead Zone, de Cimetière, de Misery, de La Ligne Verte. Concernant Les Évadés, c'est un film qui est régulièrement cité comme l'un des films les plus aimés du monde entier. Il est numéro 1 sur IMDb, il est numéro 6 sur Allociné, il est numéro 33 sur Sens Critique, et effectivement il est cité comme l'un des meilleurs films de l'histoire. Pourtant, quand il sort en 94, c'est un échec au box-office, c'est-à-dire qu'il coûte 25 millions. Il en récupère à peu près la même chose. Il a 7 nominations aux Oscars, 0 statuettes. Donc c'est un film qui, quand il sort, n'est pas aimé. Et donc c'est assez étonnant qu'aujourd'hui ce soit considéré comme l'un des films les plus aimés. Pourquoi, à ton avis, un tel engouement, un tel plébiscite pour Les Évadés, Charlotte?
Aujourd'hui, bah parce que ce film est parfait.
Très bien.
Ah non, mais là,
et voilà qui conclut notre émission.
Voilà. Non, non, mais moi, si Les Affranchis n'existaient pas, ce serait mon film préféré, Les Évadés de Shawshank. Je trouve que tout est parfait. Et Darabont, c'est le meilleur adaptateur de Stephen King qui existe. Il a fait La Ligne Verte, il a fait The Mist. C'est pour moi le réal qui... Et il a écrit aussi, hein, d'ailleurs, il les a écrits et réalisés. Et c'est le cinéaste qui comprend le mieux comment on adapte Stephen King, qu'est-ce que ça raconte Stephen King, et qui a vraiment réussi à passer au-dessus des clichés de genre, d'horreur, de machin. Bon, c'est absolument pas important.
Donc Darabont qui a réalisé également la série Walking Dead.
Ouais, enfin le début. Les débuts, il s'est vite carapaté quand même.
Et qui est né dans le Doubs.
Mais non.
Mais si. Il est absurde. Mais ça, c'est pas là. Je crois, hein, ou à Mulhouse, ou pas loin, mais dans le Doubs, bref, il est absurde. Dans le Jura, bah, ça n'a aucun sens. Franck Darabont, réalisateur des EBD, et voilà. Et est né en France, donc ça n'a pas de sens. Mais bref, voilà, petite info. En fait,
ok, on note.
Du coup, on se sent un peu plus proche de lui, tu vois.
Ah, mais ça y est, mais moi je m'identifie. Voilà. Non, mais tout est parfait dans ce film. Le cast, le rythme, c'est un film qui prend son temps, où il y a des vraies séquences longues. Il y a cette scène merveilleuse où Andy Dufresne va juste mettre un vinyle, fermer toutes les portes à clé, poser un vinyle et s'offrir, même s'il sait que derrière il va être puni, même s'il sait qu'il va s'en prendre plein la gueule. Il se prend ses 3 minutes et il écoute la musique classique et il retrouve une forme de liberté dans la prison. Mais cette scène, mais je pourrais la regarder un milliard de fois. Rien que pour ces petites scènes-là, ce film est hyper important. C'est un film sur la prison, c'est un film sur le racisme, c'est un film qui a beaucoup, beaucoup plus de sujets qu'il n'y paraît, avec un panel de personnages qui ont tous une backstory, qui ont tous une existence. C'est-à-dire que c'est pas juste des pions posés là autour du héros. On sait d'où ils viennent, on sait pourquoi ils sont là. Ils ont chacun leur petit truc à eux, t'as le prisonnier qui nourrit son petit oiseau. Ils sont caractérisés, ils existent. Moi, je trouve ça extraordinaire, quoi.
Et c'est vrai que c'est un film qui est caractérisé assez régulièrement de film feel good. Parce que c'est un film qui...
Étrangement,
parce que c'est un film effectivement qui se passe en prison, où il y a quand même des trucs pas très fun qui se passent assez régulièrement, mais qui se termine... Alors qui se termine de manière un peu particulière, et c'est peut-être pour ça aussi que les gens l'aiment, c'est que c'est pas un mariage, c'est pas la mort d'un ennemi, c'est pas... C'est un film qui se termine par...
Une bromance,
la liberté. Cette idée un peu abstraite de c'est une fin qui flotte comme ça, et pourtant qui perce tout le monde au cœur. Et c'est drôle parce que Morgan Freeman disait que c'est un film qui a donc pas marché du tout en 94, mais c'est un film qui, moi j'adore ça, qui a eu son succès grâce au bouche à oreille uniquement, et qui, je trouve, des films comme ça qui, parce que en termes d'industrie, en termes de timing, en termes de diffusion, ne fonctionnent pas, arrive à se faire son chemin comme ça dans l'esprit des gens et à y rester pendant mine de rien 30 ans et à être comme une évidence 30 ans après. Ça j'adore quand le cinéma fait ça, et les séries et la musique sans doute, ça c'est la même chose. Donc ça, c'est assez dingue.
Mais ça nous rappelle quand même que c'est encore le public qui décide, quoi.
Mais oui,
c'est encore le public qui décide si un film est bon ou pas, et voilà. C'est pas parce que l'année où il est sorti la critique a fait ouais je sais pas que le public va pas s'en emparer l'année d'après et décider que c'est son film culte.
Ça, c'est beau. Et là, tu parlais de Frank Darabont. Effectivement, il a réalisé Les Évadés, adaptation de Stephen King. Il a également réalisé La Ligne Verte avec Tom Hanks, et également une adaptation de Stephen King. Tous ces éléments-là, tout, dont tu parlais de l'histoire des Évadés, cette densité de personnages, ces moments un petit peu particuliers, ils sont dans le roman de Stephen King.
Ils sont dans tous les romans de Stephen King.
Du coup, qu'est-ce que rajoute Frank Darabont? Quelle est la couche de sublime que rajoute Frank Darabont? En fait, qu'est-ce qui fait le sel de ce genre de film-là? Pourquoi Frank Darabont n'est pas un autre?
Frank Darabont, il rajoute pas. Frank Darabont, il est à l'écoute. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait le cœur de l'œuvre de Stephen King, peu importe le genre, qu'il fasse de l'horreur, du surnaturel, du policier, du drame, c'est l'amitié, l'humain et la ville, ou la reine. Et ça, Darabont, il l'a compris. Il aurait pu faire un film de prison ultra violent, pas très joli. C'est jamais très bien éclairé, les films sur les prisons. Là, il a fait un grand, grand, grand film, extrêmement bien filmé, où t'as des travelling incroyables, l'étalonnage est incroyable. Enfin, vraiment, il a donné un écrin sublime à cette histoire. Ouais. Oui, et puis la musique est belle, il travaille avec le soleil, les couchers de soleil. Il a compris qu'en fait, Stephen King, à aucun moment, dans aucun de ses livres, est en train de raconter quelque chose de moche, en fait. Stephen King, c'est un amoureux des personnages, c'est un amoureux des histoires, et il n'est pas là pour pourrir nos vies, il est là pour les enchanter. Et je crois que vraiment, Darabont, avec Rob Reiner, qui a fait Stand By Me, avec Mick Garris, il y a quelques réals comme ça qui se sont pas jetés en fait sur ce qui était simple dans Stephen King, c'est-à-dire la première couche, qui sont allés vers la deuxième, la troisième couche, qui est: il y a quoi dans cette ville? C'est qui ces gens? C'est qui ces gens dans cette prison? On aurait pu passer notre temps à voir des bastons dans les douches, la cantine c'est pas bon. C'est pas ça, on s'en fout. C'est qui ce vieux monsieur? C'est qui ce jeune gars avec son look de Fonzie dans Happy Days qui arrive avec son machin? Ce personnage-là, le personnage du jeune qui va être celui qui va révéler, ou enfin essayer de révéler qu'Andy Dufresne est innocent. Bon, je spoil un peu, mais c'est quand même un film de 94, faut se réveiller.
Réveillez-vous, les auditeurs.
On va pas juste nous dire Il vient pas juste pour dire moi j'ai une révélation et je me casse. Il vient, il repasse son bac, il prend le temps, on voit sa volonté, on voit son envie de travailler, on voit qu'il est drôle, il raconte des anecdotes, on prend le temps sur tous les personnages. Et ça c'est dans, mais dans Stand By Me c'est pareil, on prend le temps sur tous les personnages. Pour moi le plus gros échec d'adaptation de Stephen King et qui est vraiment qui explique pourquoi, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est 22 novembre 63 où
Avec James Franco,
produit par J.J. Abrams, qui est décidément quelqu'un que je déteste.
Qui est une série qui était à l'époque quoi,
sur Hulu. Et je crois que c'était en 4 épisodes, hein, c'était rapide. Et la série raconte uniquement le détail qui est le prof d'histoire va essayer d'empêcher le meurtre de Kennedy. Sauf que le livre ne raconte pas ça du tout. Le livre raconte la société américaine dans les années 60. Et sur 1000 pages, t'as 900 pages sur la société américaine et t'as 100 pages sur... Et le truc a été fait à l'envers. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, Shawshank et Darabon et la façon dont il a... C'est une nouvelle, hein, c'est pas un roman. Hein. Il a fait un film de 2 heures avec ça. Ouais. La façon dont il a attrapé les personnages et qu'il en a fait un film de personnages et pas un film de prison, c'est un film de personnages, il a tout pigé. C'est comme ça qu'il faut faire. Dans The Mist, également réalisé par Darabon, oui, il y a cette force surnaturelle qui fait que les gens doivent se protéger dans un centre commercial. Ok, mais qu'est-ce qui nous intéresse là? C'est pas ce qui se passe dehors. C'est les rapports entre les gens, leurs discussions, qui sait quoi sur qui, comment la solidarité va se créer. Et c'est ça qui rend The Mist intéressant. Et finalement, quand t'arrives à la fin du film, t'en as rien à foutre de savoir c'est quoi la force surnaturelle dehors. Tu t'en fous.
Les monstres n'ont pas dehors, ils sont...
Les monstres sont à l'intérieur, mais c'est ça qu'il a insufflé à The Walking Dead également. Moi, je ne suis pas du tout une fan de The Walking Dead, mais on ne peut pas lui enlever. Il en a fait, quand il était encore là, une série de personnages. Donc, ce mec a une compréhension de ce qu'est Stephen King et de ce que raconte Stephen King. Pour moi, Stephen King, c'est vraiment la mémoire de l'Amérique. Il a traité toutes les époques, il a traité beaucoup le Maine, ok, mais bah oui, voilà, Castle Rock, enfin Bangor, etc. Il a son lieu préféré, mais il raconte l'Amérique comme personne. Et comme on s'obstine à le voir comme un auteur de genre, on en oublie que c'est un auteur de vie.
Ouais, et c'est un auteur qui dissèque admirablement le pays dans lequel il vit, c'est les États-Unis. Et là, tu vois, on parlait de ça, on parle de prison. La ligne verte, c'est également une prison. The Mist, c'est un centre commercial. Stephen King, un peu comme John Carpenter par bien des aspects, c'est un auteur du microcosme.
C'est un microscope.
C'est un microscope.
Stephen King, il pose un microscope, il regarde une petite bande de fourmis et avec ça, il raconte le monde. Il est hyper impressionnant. Oui, c'est un auteur culte. C'est un des auteurs qui vend le plus au monde. Il est adoré, mais je pense qu'il est vraiment pas compris, en fait. Ouais. C'est pas, pour moi, un auteur de station-service d'un livre qu'on lit de temps en temps quand on prend le train, quoi. C'est vraiment, moi, c'est un auteur que je lis depuis que j'ai 13 ans. Je lis tous ses livres, je l'aime à la folie. Et je suis triste, en fait, quand je vois une adaptation foirée. Quand It est sorti, la deuxième version de ça, parce que la mini-série de ça est très réussie.
Ouais.
Mais alors, quand le film est sorti... Mais j'avais envie de chialer dans le cinéma. Et j'étais voir les deux pour être sûr que c'était pas que j'étais de mauvaise humeur pour le premier chapitre. Non, c'est que c'était nul en fait. C'est que c'est trop d'effets spéciaux, c'est trop de jumpscares. On s'en fout. Raconte-moi la vie de ces gosses. Pourquoi ils sont traumas comme ça? Qu'est-ce qui a fait les adultes qui sont devenus? C'est ça le sujet de ça. C'est les traumas de l'enfance, c'est l'inceste, c'est être bully à l'école qui fait des adultes bancales. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de à quoi ressemble le clown et est-ce qu'il est bien fait, est-ce que les dents font peur? Je m'en fous, c'était raté. Et quand je voyais les gens dans le cinéma, j'étais malheureuse. Mais vraiment.
Alors tu l'as dit, effectivement, tu es fan de Stephen King.
Oui.
Pour les gens qui te connaissent, c'est une évidence, mais pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est pas forcément évident. Comment est-ce qu'on devient fan de Stephen King? Quel est le mode d'emploi pour être fan de...
Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu, mais vraiment, la mamie la plus cool de la Terre. Et ma mamie, quand j'avais 13 piges, elle m'a mis mon premier Stephen King dans la main. Et c'est la meilleure mamie. Mais moi, ma sœur, mon cousin, on est tous fans de Stephen King grâce à elle. Elle nous les achetait les uns après les autres. Et tous les mercredis, elle nous filait 10 balles pour qu'on aille au vidéoclub. Et tous les mercredis, on louait un film adapté de Stephen King. Donc moi, c'est mon amour des livres vient de lui. Et je pense que ma cinéphilie vient de lui. Donc raconter des histoires... Le conteur d'histoire, pour moi, c'est Stephen King. Et c'est grâce à ma mamie qui m'a mis cette graine. Et depuis, et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui, je ne loupe jamais une sortie d'un bouquin de Stephen King. Et je, malheureusement, je ne loupe jamais une adaptation. Et Dieu sait que c'est quand même à 90% foiré.
Pas ouf, quoi. Ouais.
C'est même pas que c'est pas ouf, c'est que c'est honteux, en fait.
Alors, moi, j'ai envie de te demander deux choses. Alors, tu es journaliste et professionnel, donc tu as pu rencontrer plein de gens dans ta vie. Est-ce que tu as rencontré Stephen King?
Non,
La question qui fait mal, pas lui.
Non, une fois, il est venu. En fait, il a peur de l'avion, Stephen King, donc il se déplace pas beaucoup. Mais il est venu. Je remercierai jamais assez le MK2 d'avoir fait une séance de dédicace avec Stephen King quand Dr. Sleep est sorti. Et donc, j'ai fait la queue avec ma sœur pendant 6 heures autour de la BNF, là où il y a les pires courants d'air de France. Ça devait être genre au mois d'octobre pour faire signer Mémoire d'écriture, qui est évidemment mon préféré, puisque c'est dans ce livre qu'il explique comment il écrit et qu'il apprend à écrire aux jeunes auteurs que nous sommes, que nous essayons d'être. Et voilà, voilà ce que j'ai. Je lui ai posé mon livre, il a signé, il me l'a rendu, il m'a même pas regardé. C'était mon moment avec Stephen King. Et la veille, il y avait une conférence de presse dans un hôtel où je suis allée grâce à l'ancien programmateur des émissions d'OCS, Julien Bidet, je le remercierai jamais assez. Et il m'a filmé quand Stephen King est arrivé. Et vraiment, je suis au fond de la salle et je dis aux gens, mais poussez-vous, mais poussez-vous, il est là. Et après, je le regarde et je fais, il est là. Et j'avais 40 ans. Et c'était comme si je voyais vraiment Dieu, quoi. Enfin, c'était complètement fou, voilà. Et après, il a fait le Grand Rex et il nous a lu Dr. Sleep. Et c'était un des plus beaux souvenirs de mon existence. C'est pour ça que vraiment, je demande au cinéaste de respecter ce qu'il écrit. C'est un scénariste aussi, Stephen King.
Oui,
voilà, il a scénarisé Rose Red.
Il est un acteur, un peu.
Il a scénarisé la mini-série Shining parce qu'il n'aime pas la version de Kubrick. Bon, il fait ce qu'il veut, la version de Kubrick est magnifique. Mais la mini-série est super aussi, réalisée aussi par Mick Garris. Donc c'est un scénariste, je sais pas, lisez ses scénarios, quoi.
S'il vous plaît, faites votre travail.
Faites un effort et regardez Shawshank si vous ne l'avez pas vu, parce que peu importe que l'histoire soit dans le titre, ça c'est vraiment la France, enfin je sais pas ce qui nous a pris de l'appeler comme ça, enfin, c'est complètement débile, c'est débile. Mais c'est vraiment un des plus beaux films du monde et ça raconte quelque chose qui tient à cœur beaucoup à Stephen King, c'est l'amitié. C'est ça le fond de ce film. C'est vrai que je te dis, la fin, c'est une romance. C'est deux mecs que tout sépare, qui se rencontrent en prison, qui deviennent les meilleurs amis du monde. Et tous les livres de Stephen King, à un moment, c'est des amitiés qui se créent. Hein. C'est très important.
Et du coup, tu m'avais raconté, il y a quelques années, que tu avais fait un tour.
Oui, mais je suis allée à
Stephen King dans sa ville parce que tu as... à Bangor, un tour pour les fans de Stephen King où tu vas dans la ville où il habite et tu fais un tour et tu vas même devant sa maison, et etc.
Oui.
Tu peux nous raconter ça en quelques mots.
Je suis ce genre de psychopathe. J'ai profité d'aller voir Pearl Jam aux États-Unis pour faire un petit détour par Bangor.
Super vacances, quoi.
Ah ouais, non, j'avoue, c'est les meilleures vacances de mon existence. Et en fait, effectivement, il y a un tour où tu es dans ton petit bus et en fait, le mec qui conduit, c'est un de ses potes d'école. Donc il le connaît depuis la nuit des temps, il a des milliards d'anecdotes. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on voit la ville fictive Castle Rock, c'est en fait une sorte de gimmick de sa ville où il habite, où il a son incroyable maison qui véritablement est un château à Bangor dans le Maine. Et quand tu fais le tour, en fait, le tour opérateur t'explique, alors là, l'hôpital, c'est Stephen King qui l'a financé. Alors là, la bibliothèque, c'est Stephen King qui l'a financé. Alors ce parc, c'est Stephen King qui l'a financé. Et en fait, tout l'argent de Stephen King part pour que cette ville qui est une micro-ville, d'où l'histoire aussi des micro-lieux avec des lieux où tout le monde se connaît par son prénom, enfin, qui est vraiment l'essence de ses romans. Lui, en tout cas, il fait en sorte que sa ville elle tienne, quoi qu'il arrive.
Formidable, ça.
Il finance tout. Et il refuse que son nom, voilà, l'espèce de plaque commémorative.
Merci
là,
à Stephen King. Lui, il ne veut pas.
Il a toujours refusé. Et notamment, il a rénové la bibliothèque, parce qu'il faut que les gens de Bangor continuent à lire des livres, c'est très important. Et alors là, je pense que niveau maboulerie, tu pouvais acheter des bouts du toit de l'ancienne bibliothèque. Donc évidemment, c'est désormais mon marque-page.
Allez.
C'est un bout du toit de la bibliothèque de Bangor. Bon,
il y en a qui ont des bouts du mur de Berlin. Toi, tu as un bout du toit de la bibliothèque de Bangor.
Absolument.
Parfait, formidable.
Ouais.
Histoire de. Ouais. Merci beaucoup pour cette histoire. En tout cas, moi, j'ai déjà entendu. Je trouve c'est toujours formidable comme tu la racontes. On va conclure doucement ce troisième thème sur cette personne formidable qu'est Stephen King et sur Les Évadés qu'on vous conseille encore de voir, de revoir 1000 fois, qui est un film formidable. Est-ce que tu aurais pour conclure une recommandation, une adaptation de Stephen King qui est peut-être méconnue et que tu aimerais conseiller aux gens parce qu'il a été adapté moult fois. Est-ce que tu aurais une série, un film que tu aimerais conseiller,
alors,
bien adapté peut-être?
Un de mes préférés, c'est Chambre 1408, avec oui. John Cusack, qui me fait toujours flipper.
Et Samuel Jackson, d'ailleurs.
Ouais, absolument, sur ce mec qui va visiter les lieux les plus hantés du monde. Et là, c'est la chambre 1408. Et vraiment, ce film fait vraiment flipper. Il y a Rose Red, qui est une mini-série avec Melanie Lynskey, dont il a écrit le scénario, qui est hyper bien. The Outsider, qui a été adapté par HBO il y a 2 ans, je crois. Mmh. Maintenant, c'est... Jason Bateman, qui a produit et qui a réalisé, et vraiment, c'est un réalisateur de malade.
Donc Ozark, hein, pour les gens qui...
Voilà. Absolument. Et la même année que Shawshank, qui a eu la mini-série Le Fléau, qui est vraiment une grande réussite.
Mais en tout cas, vous avez de quoi voir, de quoi lire maintenant. Si vous êtes curieux de Stephen King, vous avez effectivement des séries à voir, des films à voir et à revoir, et des livres à lire. Merci beaucoup, Charlotte. Voici qui conclut parfaitement ce 3e thème de notre émission. On arrive bientôt à la fin de cette année Lumière, mais comme d'habitude, on ne va pas vous laisser sans quelques recommandations sur cette année 1994. Et comme d'habitude, on va vous partager nos petits coups de cœur de cette année 94. On a parlé de plein de films, de Clerks, de L'année folle de Jim Carrey, des Évadés et de Stephen King. Mais il y avait plein d'autres films cette année-là. Et toi, tu voulais recommander un film en particulier que tu trouvais formidable et que tu avais envie de recommander à nos auditeurs. Quel est-il, Charlotte ?
C'est Créature céleste, le film de Peter Jackson. Qui est un des premiers films avec Kate Winslet et une actrice qui a beaucoup moins percé qu'elle, quoique elle est dans Yellow Jacket et du coup je pense que ça y est, enfin Mazel Tov. C'est Melanie Lynskey qui est vraiment une actrice incroyable, qui est dans Rose Red. Elle est dans plusieurs adaptations de Stephen King et cette série catastrophique, la Castle Rock, qui est sortie il y a quelques années, qui est une horreur catastrophe. Et en fait c'est un film magnifique, c'est vraiment le film où je suis tombée dessus par hasard, toujours avec cette mamie formidable.
Qu'est-ce que ça raconte, Créature céleste ?
Ça raconte une amitié naissante entre deux adolescentes qui vont tomber amoureuses. Mm. Et c'est vraiment la naissance de l'amour entre deux filles et ce sentiment d'interdiction d'être soi-même, ce sentiment d'interdiction de ne pas pouvoir aimer qui on veut. Et ça va prendre un tournant dramatique. Je vais pas raconter comment ça se termine parce que c'est vraiment dommage parce que c'est un film magnifique. Et ces deux filles, elles sont l'opposé l'une de l'autre. Melanie Lynskey, elle joue plutôt une jeune fille renfermée. Elle a une blessure, donc elle a une grande cicatrice dont elle a honte. Elle est un peu timide. Et Kate Winslet, elle joue une fille beaucoup plus solaire, très emballante, qui va la réveiller en fait. Et elles vont tomber très amoureuses l'une de l'autre. Elles ont une passion commune pour Mario Lanza, un chanteur complètement ringard, et Peter Jackson qui déjà bricole des décors incroyables parce que c'est des filles qui rêvent beaucoup. Et du coup, tu as des espèces de moments de parenthèse dans leurs rêves où elles vont avoir des châteaux chelous. Mmh. C'est entre Gondry et Peter Jackson tel qu'on le connaît après avec Le Seigneur des Anneaux et tout. Mais tu sens déjà que ce mec voit Larger Than Life quand il filme même cette histoire d'amitié et d'amour. Il faut que ce soit un truc incroyable. Ça va montrer... les désastres d'entraver l'amour.
C'est beau, enfin, c'est terrible à entendre, mais en tout cas, moi ça me donnait énormément envie de voir ce film que je n'ai pas vu.
Formidable. Et ce duo d'actrices, enfin vraiment, c'est sublime.
Donc un film sur l'amour, sur l'amitié, sur des actrices formidables, et Peter Jackson, et donc Créature Céleste, Heavenly Creatures.
Heavenly Creatures,
c'est
ouais.
Ça. C'est ta recommandation de cette année 1994. Merci beaucoup. De mon côté, le film que je vous recommande s'appelle Chungking Express de Wong Kar-wai. Qui raconte l'histoire d'une petite boutique de quartier de Hong Kong qui du coup accueille un policier qui lui se console d'avoir été plaqué et un autre policier qui lui achète des plats et des salades pour une hôtesse de l'air qui croise une fois par mois. Bref, et du coup, un peu comme dans Clerks, t'as plein de gens comme ça qui se croisent autour d'une petite boutique de quartier tenue par une certaine faille qui est une jeune fille un peu... comment je la décrirais ? Ouais, un peu... moi, je l'adore, mais voilà, elle est un peu flottante et puis elle va visiter l'appartement du policier quand il n'est pas là et du coup, elle va le faire le ménage. Enfin bref, et c'est le genre de film qui, moi, je le dis assez souvent, il y a des films qui me font peur. Je ne sais pas si ça, toi, c'est pareil pour toi, mais parfois, quand tu vois Chungking Express ou quand tu vois Paris, Texas, des choses comme ça, c'est des films qui sont assez... tout le temps précédé d'une énorme aura qui peut du coup un peu apeurer en tant que spectateur. Et du coup, moi, quand je l'ai découvert, j'étais un peu sur le recul. Et c'est un film qui m'a défoncé, qui m'a dévasté. Et c'est du coup, ça a bondi dans mon top 10 parce que c'est le genre de film expérience. C'est-à-dire que l'on est à Hong Kong, on est entre la journée, l'effervescence de la journée, ça bouillonne, c'est Hong Kong, il y a les marchés, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui passent. et la nuit Hong Kong. La nuit avec ses lumières, ses néons, ses... et puis ça vit toujours Hong Kong, ça vit de jour et de nuit, et t'as ces gens qui passent. Et Wong Kar-wai, c'est un cinéaste aussi, encore, on en revient, de l'introspective, de l'existentiel, du temps qui passe, de qu'est-ce qu'on fait là, de comment est-ce qu'on le fait, et des gens qu'on croise, et de un peu comme dans Clerks, de cette localité, de comment ces trajectoires de gens qui se croisent toujours au même endroit et du coup pendant un court instant ils se croisent, ils vivent, ils se partagent des choses et puis ils repartent dans leur trajectoire et dans leur diagonale. Bref, c'est un film qui m'a voilà, c'est un film qui est un de mes préférés, et donc c'est Chungking Express de Wong Kar-wai, et donc c'est ma petite recommandation pour 94. Voilà, un film formidable. Voilà, je ne sais pas si toi tu l'as vu.
Non, pas du tout, voilà, mais tu me donnes envie.
Voilà, donc c'est assez dingue, et pareil, c'est visuellement fou. Bref, c'est une expérience en soi. Bref, merci beaucoup Charlotte.
Mais avec plaisir.
Voilà,
merci
qui conclut cet épisode d'Année Lumière consacré à 94. Donc merci à toi Charlotte d'avoir partagé ton cinéma et en tout cas tes recommandations. Stephen King. Je crois que les gens ont de quoi lire, voir et en série et en film à la fin de cette émission.
Oh, il y en a pour toute une vie là.
Je remercie également les partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio qui nous accueillent dans son studio de la Villette à Paris. Et enfin, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de partager cet épisode, de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission, même modestement, via le site ou l'application Utip, UTIP. Merci beaucoup. En attendant, moi, je vous donne un rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.